Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Henri Sterdignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien, vous faites partie des fondateurs de l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques, et du collectif des économistes atterrés. Vous êtes l'un des co-auteurs de Penser l'alternative, le livre qui vient de sortir chez Fayard. Il est sous-titré « Réponse à 15 questions qui fâchent ». Alors au moment où la situation économique de la France est qualifiée de fâcheuse, justement, avec un endettement public record de 5,5% du PIB et une cure d'austérité de plusieurs dizaines de milliards promise par Bruno Le Maire dans le but de revenir aux 3 points d'endettement du pacte de stabilité européen en 2027, il m'a semblé intéressant de savoir ce que préconise un économiste de gauche. Notre endettement public est-il aussi grave pour vous qu'on le dit ?
Eh ben, disons que ce n'est pas aussi grave. Disons que la France n'est pas une situation particulière. On a des grands pays comme le Japon, comme les États-Unis, comme l'Italie, qui ont des dettes publiques nettement supérieures à la nôtre. Notre problème, c'est qu'on a l'Allemagne qui est tout à fait particulière, et on est dans une zone euro où on veut nous imposer des normes de déficit et de dette publique que ne respectent pas les autres pays.
C'est le résultat de quoi, pour vous, cet entêtement record ? D'un excès de dépenses ou de la faiblesse des recettes ?
Disons d'abord à l'échelle macroéconomique, c'est le fait que le capital l'a emporté sur le travail. À l'échelle mondiale, il y a un déficit de demande, donc on est plus ou moins obligé d'avoir des déficits publics dans un grand nombre de pays, sauf les pays qui peuvent s'en sortir en ayant un excédent extérieur. Mais tous les pays ne peuvent pas avoir un excédent extérieur. Et dans le cas de la France, on a d'abord le fait que on a un ralentissement économique qui nous coûte quand même environ 2 points de PIB de déficit. Et puis on a eu une stratégie de politique économique, de baisse des impôts, mené par les gouvernements successifs de Macron, qui font que, grosso modo, on manque de recettes.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous ? Augmenter les recettes, donc augmenter les impôts, mais on nous dit que la France est déjà championne du monde des prélèvements obligatoires avec 46%.
Non, il faut surtout changer d'orientation. Hein. Je veux dire, on a eu une politique dans laquelle on a baisser fortement les impôts des entreprises sans rien leur imposer en contrepartie. On a réduit un certain nombre d'impôts des plus riches. Il faut renverser en quelque sorte la vapeur. Il faut mettre des contraintes plus lourdes sur les entreprises. Les entreprises doivent distribuer moins de dividendes, moins de rachats d'actions et doivent investir plus, en particulier pour la transition écologique. On a besoin d'investissement et ça nous arrangerait beaucoup que les sommes énormes dont disposent les entreprises soient effectivement investies pour la transition écologique. Et par ailleurs, on a des couches supérieures en France qui ont beaucoup, beaucoup d'épargne. On a 154 milliards de déficit public cette année, mais en face, on a environ 130 milliards d'actifs financiers supplémentaires épargnés par les couches les plus riches. Donc les couches les plus riches épargnent trop, c'est elles qui détiennent la dette publique et qui en sont responsables en quelque sorte. Donc il faudrait réduire un peu la richesse des plus riches, qui épargnent beaucoup, et plutôt aider les plus pauvres, qui, eux, consomment directement.
Mais Henri Sterdignac, pendant ce temps-là, l'État, lui, continue d'emprunter sur les marchés financiers. Or, les taux d'intérêt ont augmenté. Est-ce que le coût de la dette ne risque pas de devenir insupportable ?
Disons, on a une bonne nouvelle, c'est que les marchés financiers ne s'affolent pas. C'est-à-dire que l'écart de taux avec l'Allemagne n'a pas augmenté, c'est toujours 0,5 points. On s'endette au même taux que la Belgique, que l'Autriche, que la Finlande, qu'un grand nombre de pays vertueux. Au total, on s'endette à 2,8%, ce qui est normalement est inférieur à la croissance qu'on en valeur qu'on prévoit. Donc la dette jusqu'à présent n'a pas un coût exorbitant, et
donc faut continuer.
faut remercier les marchés financiers. Hein. Il faut voir que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'épargne, de gens qui cherchent désespérément des placements sûrs.
La France,
naturellement, la France s'est considérée comme un des pays les plus sûrs. Si vous êtes un fonds de pension américain, vous choisissez la France parce que quand même c'est plus sûr que l'Italie, et ça rapporte plus que l'Allemagne, donc on n'a pas de problème, et les marchés financiers ne s'affolent pas, ils font confiance à la France, contrairement au discours qu'on entend. Ils savent très bien qu'en France, on peut, si nécessaire, restaurer rapidement nos finances publiques. Le problème, c'est qu'il faut pas faire chuter l'activité, parce que chuter l'activité, c'est plus de chômage, donc il faut un arbitrage subtil.
On fait une pause, Henri Sterdyniak, on y revient tout de suite après. Henri Sterdyniak est mon invité ce matin. Il fait partie des économistes atterrés qui publient « Penser l'alternative » aux éditions Fayard. Le livre est sous-titré « Réponse à 15 questions qui fâchent ». Alors, je les lui pose, toutes ces questions qui fâchent, pas toutes, mais certaines. Le rôle de la Banque Centrale Européenne, par exemple, en relevant ses taux directeurs, elle a augmenté la charge de la dette et en même temps, elle a freiné la croissance en Europe.
Oui, bien sûr. Il se trouve que la Banque Centrale Européenne considère que sa grande mission, sa seule mission, c'est de briser l'inflation. Depuis une quarantaine d'années, il y a une sorte de mode qui s'est établie à l'échelle mondiale, disant la Banque Centrale, ça doit être un organisme dont la seule mission est de briser l'inflation. Et donc, c'est ce que continue à faire la Banque Centrale Européenne, bien qu'actuellement, il n'y a plus d'inflation en France. On a eu un chiffre de 2,3% le mois dernier. Et la Banque Centrale Européenne continue à avoir des taux trop élevés qui brisent la construction et l'investissement des entreprises. C'est un des éléments contre lequel il faut lutter à l'échelle européenne.
Le vieillissement de la population française, est-ce que ça condamne à plus ou moins brève échéance, à votre avis, le modèle social français ?
Le modèle social français, c'est un choix politique, c'est un choix social qu'on peut maintenir si la majorité des Français le souhaitent. C'est un système dans lequel on dit il est normal que les retraités aient le même niveau de vie que les actifs. Il est normal qu'on aide les personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Il est normal qu'on aide les familles avec enfants et on les aide pas assez. Il est normal que la santé soit gratuite pour les maladies les plus graves et peu coûteuse pour les autres. C'est un choix social. Si on est prêt à payer pour ça, on peut le maintenir. C'est un choix social.
Mais il faudra payer de plus en plus, c'est ce que vous avez l'air de dire.
Il faudra payer une certaine proportion de notre revenu, sachant qu'en contrepartie, on profitera plus longtemps de notre retraite si effectivement, puisque l'espérance de vie continue à augmenter. Je veux dire, quelle est l'alternative ? Est-ce qu'on souhaiterait qu'effectivement, de nouveau, les personnes âgées soient dans la pauvreté ? On peut pas sérieusement le souhaiter. Et puis, on a des prévisions du corps qui nous disent, on peut tenir le choc. Je répète, il y a un choix social à faire. Est-ce qu'on accepte une légère baisse du niveau des retraites ? Est-ce qu'on accepte une légère hausse du taux de cotisation ? C'est un choix social. Ce qu'il faut dire, c'est que les retraites, c'est un droit social qui est acquis par des cotisations. Donc les jeunes qui cotisent aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils auront effectivement une retraite demain.
Le chômage est-il trop rémunéré et pendant trop longtemps ? C'est une question qu'on commence à se poser aujourd'hui, notamment notre Premier ministre, Gabriel Attal.
Le chômage n'est pas rémunéré, le chômage il est indemnisé. Il est indemnisé pour 40% des personnes inscrites à Pôle emploi, à France Travail. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un emploi et qui ne sont pas indemnisées. L'indemnisation moyenne, c'est 1111 euros, donc on ne peut pas considérer que c'est des sommes importantes. Le problème, c'est que le gouvernement est lancé dans une campagne visant à détruire progressivement le modèle social européen, à détruire l'idée que on a droit, que les travailleurs qui sont au chômage ont le droit à une certaine période pour retrouver un emploi avec un niveau de vie pas trop dégradé. Et l'idée maintenant, c'est on va réduire fortement la durée d'indemnisation. Ensuite, on va les mettre directement au RSA. Et au RSA, on va leur un RSA de très bas niveau et on va leur mettre des contraintes supplémentaires. L'objectif, c'est de forcer les travailleurs à accepter n'importe quel emploi avec des mauvaises conditions de travail, un bas salaire. C'est contraire à l'idée. Les prestations chômage, c'est un droit. Il faut que les gens aient une certaine possibilité de trouver un emploi qui leur convienne.
Mais c'est pas par sadisme, Henri Sterdyniak, que si le gouvernement réfléchit à ça, c'est parce que le poids des transferts, c'est la plus grosse part des dépenses publiques. Aujourd'hui, c'est pas les services publics qui coûtent le plus cher à l'État. Ce sont les transferts, dont les cotisations chômage ou la sécurité sociale ou les retraites.
Non, c'est pas par sadisme. Je veux dire, les classes dirigeantes estiment bien sûr que les protections sociales, ça coûte cher. Les classes dirigeantes estiment que les salaires, ça coûte cher. Ça a toujours choqué les classes dirigeantes de dire quoi? On est obligé de payer des retraités ou des chômeurs qui travaillent pas. C'est scandaleux. Non, je veux dire, ça fait partie de notre modèle social que se dire voilà, on prend en charge les salariés puisque la protection sociale est payée par des cotisations sociales. Les salariés ont choisi de prendre en charge les retraités, les malades, les familles, les chômeurs à un niveau convenable. Ça protège les salariés et en même temps, naturellement, les classes dirigeantes aimeraient bien imposer aux salariés des sacrifices.
Est-ce qu'il faudrait un peu plus de protectionnisme, à votre avis, Henri Sterdyniak ?
Le grand problème de notre économie, c'est que, un, il faut prendre le tournant écologique, et deuxièmement, il faut réindustrialiser. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, malheureusement, en ce qui concerne la transition écologique et même la transition numérique, on n'est pas compétitif, si on veut dire, par rapport aux énormes machines chinoises ou américaines. Et donc, soit on se résigne à petit à petit décliner, soit effectivement, il faut prendre des mesures fortes pour protéger nos industries, en particulier les industries dont on va avoir besoin pour la transition écologique. Et donc, il faut pas avoir de fausse pudeur et dire clairement, la Chine et les États-Unis soutiennent massivement leurs industries. Nous, en Europe, on doit faire pareil, et en particulier les industries d'avenir.
Merci Henri Sterdyniak. Pensez l'alternative, c'est signé par plusieurs économistes atterrés comme vous. Et ça vient de paraître chez Fayard. Le sous-titre, c'est « Réponse à 15 questions qui fâchent ».
Voilà, merci.